Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut à tous, bienvenue dans le paddock RMC. Tous les lundis, après les Grands Prix, on débriefe les week-ends de course. C'est le nouveau podcast Formule 1 de RMC. Le Toto Wolf du paddock RMC aujourd'hui, c'est Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Ça envoie du lourd. Salut Nico. Salut Paul, salut à tous.
Notre ingénieur en chef qui analyse toutes les datas, c'est Paul Lafitte. Salut Paul.
Salut Nico, salut Jean-Luc.
Première manche, les gars, du championnat à Bahreïn. Max Verstappen a déjà écœuré la concurrence. Il a roulé sur tout le monde, comme un parfum de la saison dernière. Est-il déjà imbattable? On va en débattre. On reviendra sur la course difficile de Charles Leclerc, les déceptions Mercedes ou encore la catastrophe attendue qui a bien eu lieu pour notre écurie française Alpine. Abonnez-vous au podcast, hein, on vous le répète, donnez-nous une note sur toutes les plateformes de téléchargement, c'est super important pour nous cette petite note. Ça fait longtemps puisque vous n'avez pas été noté, Jean-Luc et Paul, hein?
Bah, depuis vous... l'école, ça ouais, dit, oui, ça. Un petit moment, effectivement.
Une trentaine d'années, on va dire ça comme ça.
Si vous nous découvrez, en tout cas ce lundi, pour la première fois, vous avez déjà un épisode en ligne. Hein. On vous a présenté en longueur la saison en analysant tous les rapports de force. Donc n'hésitez pas à nous faire des commentaires sur ce paddock RMC. C'est le moment justement de rentrer dans le paddock RMC.
Les feux rouges vont s'allumer. Au-dessus de la grille de départ, c'est le cas maintenant à l'extinction. Des feux, ça va partir, on va suivre. L'adhérence dans les premiers mètres, voilà. Départ du premier Grand Prix de la saison 2024 avec un excellent départ pour Verstappen qui a fermé la trajectoire à Charles Leclerc qui se déporte à l'extérieur pour essayer de lui faire le freinage. Il est à la hauteur du pilote hollandais, mais non. Max Verstappen parvient à conserver la première place devant, semble-t-il, Russell qui à un moment était devancé par Perez.
Ah oui, derrière, c'est très chaud. Verstappen profite évidemment de sa position dominante pour creuser l'écart. Nous sommes dans le 8e tour, il a creusé plus de 6 secondes d'écart sur George Russell. Venons de passer le premier tiers de ce Grand Prix qui va compter 57 tours. Nous sommes dans le 22e tour et Max Verstappen qui a fini par s'arrêter quand même au 18e tour pour chausser comme ses camarades des pneumatiques dures, et bien il est en tête et là il vient d'établir un nouveau record en course, 1 minute 35 secondes, 160 millièmes. Il compte 8 secondes et demie d'avance sur son propre équipier Perez. J'avoue que là, honnêtement, je vais avoir du mal à vous vendre la suite. On est maintenant dans le dernier tour, les derniers mètres pour Max Verstappen, voilà, qui va remporter la première victoire de la saison 2024, qui en prélude évidemment d'autres. 55e succès en Grand Prix pour Max Verstappen.
Le paddock RMC.
Une domination insolente, un rouleau compresseur. Verstappen était en mode machine de guerre à Bahreïn. Il signe le grand chelem, pole position, meilleur tour. Il a mené tous les tours du Grand Prix et il s'impose avec plus de 22 secondes d'avance sur son coéquipier Sergio Perez. C'est tout simplement le plus gros écart avec un deuxième dans l'histoire de Bahreïn. Alors forcément, la question qu'on se pose tous dans le paddock ce lundi, Verstappen est-il déjà imbattable? La concurrence est-elle déjà écœurée? Avant de rentrer dans ce débat, je vais vous donner le classement de la course. Du coup, Verstappen, leader large devant Sergio Perez. Podium pour Ferrari avec Carlos Sainz qui termine 3e devant son coéquipier Charles Leclerc qui a eu beaucoup de difficultés sur cette course, on y reviendra. 5e place pour George Russell sur Mercedes. Lando Norris 6e avec sa McLaren. 7e Lewis Hamilton, hein, petite déception pour les Mercedes. Oscar Piastri est 8e. Et puis les deux Aston Martin de Fernando Alonso et Lance Stroll complètent ce top 10. On a dans les grandes largeurs derrière, pour vous donner les grandes lignes des résultats, Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda qui sont 13e et 14e, et puis la catastrophe pour Alpine, hein, Ocon et Gasly qui terminent au 17e et 18e place. Ce que je vous propose, les gars, avant de vous entendre, c'est d'écouter Max Verstappen qui, on peut le dire, était très heureux, ne s'attendait peut-être pas à cette perf-là. En tout cas, c'est ce qu'il a confié à nos confrères de Canal+ après la course.
Aujourd'hui, je crois que ça a été mieux qu'attendu. La voiture a été géniale à piloter. On avait beaucoup de rythme. Je me suis senti très bien et je ne faisais qu'un avec la voiture.
Voilà, il faisait qu'un avec la voiture. Et ça s'est vu, Jean-Luc, hein, parce que franchement, en fait, il est trop fort. Tout simplement, il n'y a pas trop d'analyse à faire. Il a l'air d'être tout simplement trop fort, Mad Max, cette année.
Bah écoute, c'est plié. Je vous propose d'ailleurs de partir en vacances. La suite de la saison n'a absolument aucun intérêt. Je ne vois pas pourquoi on ferait semblant. Bon, sérieusement, déjà, quand tu dis rentrer dans le paddock, si je peux me permettre, compte tenu de ce qui se passe en Formule 1, ce n'est pas la bonne formule. Hein. Moi aussi, je te reprends de voler. Tu sais qu'attention, il faut faire gaffe à tout ce qu'on dit. Bon, allez, on devient sérieux. Écoute, oui, bah, il est extrêmement impressionnant. 55e victoire, ça tombe bien. C'est le numéro de course de Carlos Sainz. Non, en fait, là, c'est le carton plein. C'est le cinquième de sa carrière. Il a absolument coché toutes les cases. Et c'était évidemment le pire scénario pour que ce soit passionnant. Si Charles, qui était déjà extrêmement déçu, Charles Leclerc, évidemment, de ne pas signer la pole, on rappelle, et tout de suite, Verstappen l'a souligné, qu'il a été le plus rapide sur un tour. Pendant les qualifs, c'était en Q2, hein, puisqu'il y a eu apparemment, tout petite, pas erreur peut-être, mais choix de Ferrari de ne pas lui mettre les bonnes gommes au bon moment. Bref, il a été plus rapide que ne l'a été Verstappen en Q3. Mais bon, la pole, c'est pour ça qu'il était très déçu, Leclerc. S'il l'avait devancé, eh bien, on réécrivait totalement là aussi le scénario, parce qu'il aurait pu contrôler peut-être un certain nombre de tours Verstappen. On sait que, et on l'a vu avec les Mercedes, on y viendra tout à l'heure, on peut chauffer, on peut perdre de l'efficacité sur les freins, sur les pneus. Donc, Verstappen ne se serait pas baladé comme ça. Bon, bah là, c'est le scénario idéal pour lui. Il n'y a rien à dire. Il démarre la saison comme il avait terminé la dernière. C'est absolument formidable.
Avec 8 points d'avance hein, au championnat du monde, ouais. Déjà, je ne vous ai pas donné le classement du championnat, c'est vrai, parce que c'est la première course, hein, mais Verstappen à 26 points devant Perez 18, Sainz 15e, et derrière, on déroule hein, jusqu'à Lance Stroll qui n'a qu'un petit point. En fait, ce dont on a peur, nous, les observateurs et les fans de F1, Paul, bah, c'est qu'on se dirige vers une purge encore avec un Verstappen qui écrase tout et qu'à la mi-saison, il n'y a déjà plus de championnat. C'est ça ce qui nous inquiète.
Ben, ça nous inquiète évidemment à tous, ça inquiète également le paddock. On a pu entendre les réactions hier de Toto Wolff, le manager général de Mercedes, mais également Frédéric Vasseur, le big boss de chez Ferrari. On ne joue pas le même championnat. Il y a le championnat Verstappen avec sa formidable monoplace R20 et il y a le championnat des autres, c'est-à-dire les écuries comme Ferrari, comme Mercedes, peut-être comme McLaren un petit peu plus tard, il faudra voir dans le temps. Mais c'est vrai que c'est une domination extraordinaire et Jean-Luc, c'est vrai qu'on se souvient qu'à l'époque où Lewis Hamilton dominé chez Mercedes, la seule année eh bien, où il avait eu de la concurrence, c'était lorsque Nico Rosberg était devenu champion du monde en 2016, mais il y avait deux énormes pilotes dans la même monoplace. On peut évidemment dresser un parallèle avec Max Verstappen qui n'est pas qui n'a pas un coéquipier à son niveau. Même si Sergio Pérez termine
après,
deuxième,
Pérez il fait une belle course quand ouais, même, il part cinquième sur la grille et c'est grand ce qu'il fait hier.
Oui, il fait une belle course. Alors, vous avez tous les deux raison. C'est-à-dire qu'effectivement, on espère que Pérez... Bon, du niveau de Verstappen, j'y crois plus, moi, honnêtement. Maintenant, qu'il puisse l'inquiéter parfois, si Verstappen, et malgré tout, il n'est pas infaillible, se rate un tout petit peu en qualif ou au départ. Effectivement, hier, il fait un très beau Grand Prix, hein, Pérez. On ne peut pas lui reprocher grand-chose, si ce n'est que finalement, il a du mal à contenir Sainz dans les derniers tours. Mais bon, alors qu'il a les pneus soft, hein, on va y revenir. Et là aussi, quelle confiance. On avait compris dès le début, parce que Verstappen est l'un des derniers à s'arrêter avec les pneus soft du départ, au 18e tour. Là, il chausse les durs comme tout le monde. Et puis au 38e, c'est-à-dire à 19 tours de l'arrivée, quelle confiance incroyable. On leur chausse les softs, il faut le dire. Et ça a été au 37e pour Pérez. Ça veut dire que chez Red Bull, on était sûr du coup. On savait qu'on sur 20 tours, on allait tranquillement emmener les softs jusqu'au bout. Et c'est la raison pour laquelle, là aussi, Verstappen pulvérise le record du tour. 1:32.608. Évidemment, tous les autres sont à 1 seconde et demie. Ou 2 secondes.
Et puis ce qui est fort, c'est qu'on a l'impression que cette machine Red Bull est parfaitement huilée en fait. Tu le vois, que ce soit dans les choix stratégiques, que ce soit lors des pit stops, il n'y a pas le petit grain de poussière qui peut venir perturber l'équilibre de cette machine, Paul. C'est ça qui est énorme, parce qu'hier tout se passe bien, mais en plus il y a une vraie démonstration de force dans un contexte, on le disait, bon, pas pesant, mais il y avait quand même l'affaire Christian Horner avant le début de cette saison qui pesait un petit peu. Bon, ça les a pas visiblement impactés, mais voilà, ils sont vraiment en mode rouleau compresseur dans tous les compartiments en fait d'une course.
C'est une machine de guerre, hein, Max Verstappen. Sa monoplace est extraordinaire, il l'a dit. Hein, il l'avait dit lors des séances de qualification. Il cherchait les bons réglages. Elle est aujourd'hui parfaite aux mains du meilleur pilote du monde. Et c'est vrai que la domination est totale. Jean-Luc le rappelait, hein, c'est un magnifique week-end, un 5 sur 5, hein, avec évidemment cette pole position, le record du tour. C'est une domination.
Tous les tours en tête. Partage. Hein,
tous les tours en tête. C'était arrivé au plus grand. Hein, on pense à Michael Schumacher, on pense à Ascari, on pense à Fangio, mais c'est vrai qu'il est aujourd'hui dans la meilleure des voitures. Et d'ailleurs, on pourra peut-être l'évoquer un petit peu plus tard, Jean-Luc, mais c'est vrai qu'on a souvent vu depuis le début de cette saison Toto Wolff en compagnie de Jos Verstappen, le papa et manager du fiston. Et certains bruits de couloir évoquent peut-être, pourquoi pas, Verstappen dans une Mercedes, puisqu'on sait que Lewis Hamilton quittera Mercedes pour Ferrari la saison prochaine, pour redonner, pourquoi pas, un petit peu de suspense à ce championnat qui, après une course déjà, eh bien, laisse à penser que ce sera une domination totale, voire extraordinaire, magique de Verstappen. Il y aura 24 courses cette saison.
C'est une rumeur fondée, ça, vraiment, parce que moi, je le vois mal quand même partir de Red Bull, là, avec la machine de guerre qu'il a entre les mains, quand même.
Bah, mais, Paul a raison de l'évoquer. De toute façon, bon, un contrat en Formule 1, soyons clairs, ça ne vaut rien. Voilà, donc puisqu'on les a vus casser, bah, par exemple celui de Mercedes, où on a découvert tous ensemble qu'il y avait une clause de sortie qui permettait à Hamilton de partir au bout d'une année seulement. Je parle du renouvellement, hein. Donc il l'a fait. Donc va savoir ce qu'il y a dans le contrat entre Red Bull et Verstappen, effectivement. A priori, il a un contrat jusqu'à fin 2028. Et eux, ils l'ont annoncé. Donc ça fait quand même, si jamais on doit racheter le contrat, je peux vous dire que ça va être cher, hein, s'il faut racheter le contrat à Red Bull. Alors bon, maintenant, avec ce qui se passe effectivement ou pas chez Red Bull, mais on va pas changer d'orientation comme ça, je veux dire, en mettant les choses au pire pour lui. Même si Horner devait démissionner pour les raisons que l'on sait, bah, y aurait un autre management qui serait mis en place. Il y a toujours Helmut Marko qui tient la baraque, hein, pour à l'époque il avait donc toute la confiance de Dietrich Mateschitz, et je crois savoir qu'il l'a toujours de son fils, hein, qui a récupéré les manettes de l'ensemble de la marque. Écoute, ce serait un coup de tonnerre là aussi, un autre coup de tonnerre. Bien sûr que c'est le meilleur pilote actuellement, je crois qu'on ne peut pas tourner autour du pot, Max Verstappen, donc toutes les écuries vont vouloir le récupérer, et puis ce serait effectivement un coup de retour, on va dire, puisque par rapport à ce qu'a fait Ferrari pour débaucher Hamilton, on saura d'ailleurs un peu plus tard quelles sont les conditions, parce que ça va finir par fuiter.
Bien sûr.
Moi, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'Hamilton voulait avoir la capacité de pouvoir continuer à piloter autant qu'il en avait envie, parce que peut-être Mercedes n'était pas prêt à lui concéder. Peut-être qu'il lui concédait un contrat de 2 ans, 3 ans, allez savoir. C'est moi qui, là, je tire des plans sur la comète. Et puis surtout...
Oui, tu veux dire que c'est lui qui décide de la fin.
Exactement. Là, je pense que chez Ferrari, sincèrement, ça va se passer comme ça. Et puis en plus, il est en pleine forme. Et puis on sait maintenant que les pilotes, c'est Alonso qui l'a dit, peuvent piloter jusqu'à 50 ans. Donc il n'y a pas de problème. Et puis l'autre élément, c'est qu'il voulait un statut d'ambassadeur à vie de la marque. Et je pense que ça, Mercedes a eu du mal à lui concéder. Et surtout, il faut savoir le tarif, hein, ce que demandait Hamilton. Et je pense que Ferrari parle par la voix également de John Elkann, hein, puisque là, Frédéric Vasseur n'avait peut-être pas le pouvoir d'accorder ça, bah, lui accorder. On va voir sortir des modèles Ferrari Hamilton dans pas longtemps. Et voilà, donc c'est effectivement un contrat à vie. Alors maintenant, est-ce qu'on va essayer de débaucher Verstappen? Tu as raison de le souligner, Paul. C'est vrai que tout le monde parle un peu avec tout le monde dans le paddock, hein. Donc, on peut tirer des plans sur la comète, oui.
Alors moi, Jean-Luc, je voulais t'entendre sur la stratégie et surtout sur la qualité de cette monoplace de la RB20. Parce que la RB19, l'année dernière, c'était une vraie fusée qui écrasait déjà tout le monde. Mais là, on a l'impression qu'elle est encore mieux réglée. Verstappen, il n'y a quasiment eu aucune usure des gommes hier. Il a pu faire ce qu'il voulait quand il le voulait. Ouais. Il y a un moment où il tourne à plus d'une seconde plus vite autour que ses concurrents. Mais c'est colossal, quoi.
Bah écoute, c'est ahurissant, je te dis. Encore une fois, le meilleur temps en course, hein, 1:32.608. Et donc, c'était au 39e tour. Tu vois, je l'ai signalé tout à l'heure. Il avait changé de gomme au 38e. Donc, il est malin, le bourg. Au moins, il lui restait un peu de carburant quand même pour faire les 19 tours qui restaient. Mais il écrase, comme tu le dis, la concurrence. Derrière, Perez ne tourne qu'en 1:34.364. Le plus rapide, c'est Leclerc en 1:34.090. Bref, il leur met un boulevard. Et, comme tu le dis, il fait ce qu'il veut. Non, ce qui est impressionnant de la part d'Adrian Newey et Pierre Vacher, les concepteurs de cette RB20, c'est d'avoir tout remis à plat. Parce que quand tu domines un championnat comme ça, que tu remportes, je parle de l'an dernier, 21 Grands Prix sur 22 et 19 Grands Prix pour Verstappen, tu te dis, bah, on va améliorer et puis ça suffira largement, les autres, ils vont rester loin. Non, non, on remet tout à plat et on développe un nouveau concept et on est encore tout de suite les plus rapides. Ça, c'est sidérant. Effectivement, c'est comme le disait Paul tout à l'heure, il y a on coche absolument toutes les cases. Donc oui, là, on va pas entretenir le suspense. Moi, la seule chose à laquelle je crois, c'est que les Ferrari sont très rapides en qualif, on l'a vu, et qu'on peut avoir une pole. Et le plus rapide des deux, bah, a priori, c'est Leclerc, même si Sainz a fait un très beau parcours, il n'est pas loin du tout. Bon, on peut avoir une Ferrari en pole, et là, ça change tout. Parce que du coup, Red Bull ne se balade pas en termes de stratégie. Bah, quand tu es devant avec 5, 6, 8 secondes, tu fais ce que tu veux, hein, tu t'arrêtes quand tu veux, tu regardes ce que font les autres, tu étudies bien les temps autour, et puis tu fais ta course, tu ne te soucies même pas des autres. Donc il faut espérer de tout cœur qu'à Jeddah, dans moins d'une semaine maintenant, bah, ça se passera comme ça, hein, que la pole ne sera pas dans les mains de Red Bull.
Même si Jean-Luc, l'année dernière, on avait vu que sur la dernière partie de saison, Charles Leclerc avait claqué quand même pas mal de pole position au nez à la barbe de Verstappen, et qu'après 5-6 tours de course, eh bien, le néerlandais mangeait le monégasque pour filer vers des victoires. Absolument. Avec entre 15 et 20 secondes d'avance à l'arrivée.
C'est vrai, sur les 5 dernières poles de 2023, il y en a 3 pour Charles quand même. Hein.
Ouais. Et Sainz là n'est qu'à 2 secondes 5 de Sergio Pérez, donc ça veut dire qu'en termes de monoplace, la Ferrari n'est pas si loin que ça de la Red Bull. C'est juste que Verstappen est sur une autre planète.
C'est exactement ça.
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, franchement, Paul, sur cette course de Verstappen, si ce n'est que moi, je me mets à la place des autres, en fait. Quand tu vois ses temps autour, quand tu vois sa sérénité en course, quand tu vois que même une affaire comme celle de Christian Horner ne l'a pas impacté, en fait, t'es déjà démobilisé.
C'est inexorable, tout simplement. Hein. Jean-Luc rappelait des temps autour complètement hallucinants. Et encore une fois, il va se battre tout seul pour l'obtention d'un 4e titre mondial. Et on ne voit pas qui pourrait l'en empêcher. Évidemment pas son coéquipier, évidemment pas les Ferrari, même si elles sont en train de progresser. On évoquait Carlos Sainz, qui déclarait après la course que cette monoplace était bien meilleure que le cru précédent et qu'il pouvait, avec cette voiture rouge de Maranello, et bien évidemment attaquer. Il l'a fait, il l'a prouvé face à son coéquipier, face à George Russell, pour terminer eh bien, sur le podium, le meilleur résultat qu'il pouvait espérer. Mais c'est vrai qu'on espère un rebond des autres écuries, mais on a du mal, et Jean-Luc en parle tellement bien, on a du mal à penser que Verstappen pourrait sombrer. Alors peut-être un incident mécanique, peut-être comme l'année dernière à Singapour, hein, lorsque Carlos Sainz avait remporté une magnifique victoire avec une stratégie complètement dingue, en ralentissant le peloton à la fin pour conserver un petit peu de gomme. Mais c'est vrai qu'à moins d'une erreur en qualification de son équipe, on voit mal comment Max Verstappen pourrait ne pas signer eh bien, des grands chelems quasiment tous les week-ends. On rappelle et on le disait, il y aura en tout et pour tout 24 Grands Prix à l'occasion de cette saison 2024.
Bah, du coup, on va analyser ce qui s'est passé derrière, parce qu'en fait, c'est ça le plus intéressant, hein, dans cette saison, et c'est ce qui risque d'animer la plupart des paddocks RMC qu'on aura cette année. Tiens, je ne vous ai pas donné le classement des constructeurs quand même, parce que Red Bull a fait un carton plein avec 44 points. Et derrière, c'est
Ferrari.
Merci,
monsieur Paolo Orsi.
Ferrari qui s'en tire bien avec 27. Non, mais je donne quand même quelques billes.
27, c'est magique, hein, chez Ferrari. Attention, c'était le numéro de Gilles Villeneuve et de Patrick Tambay, j'insiste. Ouais.
Et d'ailleurs, c'est un très bon début de saison pour Ferrari. Oui. On va se pencher sur la perf de ces Ferrari, avec Sainz 3e qui décroche un podium, et Charles Leclerc 4e. Charles Leclerc qu'on a vu en énorme difficulté, hein, du tout départ de la course à l'arrivée. On va l'écouter d'ailleurs sur sa déception, parce que il était plein d'ambition avant le départ de ce premier Grand Prix de la saison, et ça a été compliqué pour Charles.
On était complètement à l'arrêt toute la course. On avait un problème avec les freins, ça freinait pas à droite, ça freinait beaucoup à gauche. Donc du coup, je roulais avec une répartition de freins qui était complètement débile. On a maximisé ce qu'on avait aujourd'hui, mais bon, c'est décevant, parce que c'était une opportunité de prendre des points au championnat et on l'a pas fait, donc je suis très déçu.
Voilà, Charles Leclerc au micro du diffuseur Canal+. Bon, des difficultés de freinage, Jean-Luc. Apparemment, Ferrari aurait remplacé le déflecteur avant des écopes de frein de Charles avant la course. Et c'est ce qui aurait créé ce problème de surchauffe, avec une grosse différence entre le pneu avant droit, le pneu avant gauche. Et il a vraiment eu du mal. On l'a vu bloquer les roues tout au long de ce Grand Prix. Ça a été très compliqué. Hein.
Tout à fait, on l'a vu très vite, qu'il était tout à fait instable au freinage, et que bah, tu sais, quand tu bloques une roue, et on voit tout de suite la fumée évidemment qui s'en échappe, ça veut dire que tu fais un plat sur le pneu et qu'après les problèmes empirent, c'est-à-dire que tu pilotes un marteau-piqueur en clair, hein, parce qu'une monoplace comme ça avec un plat sur un pneu, eh ben, ça émet des vibrations terribles, donc ça se dégrade encore plus, si tu veux, il y a un effet cumulatif, tu vois, donc on part dans l'horreur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a arrêté Charles au 12e tour, ce qui qualifié assez tôt, hein, avec sa monte pneumatique d'origine, les softs, alors qu'on a arrêté Carlos Sainz au 15e, par exemple, pour, tu vois, et on avait arrêté Russell au 12e également. Hein. Mais ça veut dire qu'on voulait se débarrasser de ça en disant bah, c'est peut-être le train de pneus qui est mauvais. Ben non, c'était vraiment, comme il l'a dit, une répartition. Il était obligé, lui, de compenser à bord avec une répartition effarante. Et bon, tu peux pas résoudre. Ceci dit, il a été en course, et ça aussi, c'est quand même un élément important, l'un des plus rapides en 1:34.090. À titre de comparaison, Sainz a tourné en 1:34.507. Tu vois, il lui met quasiment 5 dixièmes en course. Bah, c'est plutôt pas mal. Alors, il faut préciser aussi que c'était donc au 44e tour pour Sainz et au 36e pour Charles Leclerc.
Ouais, il a mis beaucoup de temps à trouver l'équilibre. Et on a eu du coup le premier message radio de la saison avec un Sainz qui fonce sur Leclerc et qui dit à son ingénieur, je suis en train de revenir sur lui, qu'est-ce qu'on fait? Et d'ailleurs, on a eu la sensation, Paul, que bon, Frédéric Vasseur et les ingénieurs chez Ferrari les ont laissé un peu se bagarrer. Bon, après, il y avait tellement plus de perf côté Sainz que je pense que c'était assez inexorable qu'ils prennent le meilleur sur Leclerc. Mais ils les ont laissé un petit peu se chatouiller. Il n'y a pas eu de consigne d'équipe pour laisser passer Sainz.
Ouais, Nico, c'était tout simplement le premier Grand Prix de la saison. Si on commence à donner des consignes de course après 15 tours entre deux coéquipiers qui sont à la lutte, bon, je pense que Frédéric Vasseur, peut-être un petit peu plus tard dans la saison, donnera des consignes de course en fonction du classement ou de l'espagnol ou du pilote monégasque. Mais c'est vrai que clairement, Jean-Luc le précisait, on l'a vu, évidemment, ces problèmes de frein ont handicapé le pilote monégasque et que, eh bien, fatalement, Carlos Sainz l'a dépassé. Mais Carlos Sainz qui a quand même fait une de ses meilleures courses avec Ferrari. On évoque évidemment sa victoire à Silverstone il y a deux saisons ou encore à Singapour l'année dernière, mais c'est vrai qu'il avait le couteau entre les dents. Il l'avait déclaré à l'issue de la séance de qualification, il était prêt à se battre, lui qui avait bien signé le quatrième temps des qualifs. Et au final, ce podium vient récompenser toute la hargne de l'Espagnol qui a en plus, Jean-Luc, hein, prouvé bien à l'écurie de Maranello qu'il était un très très bon pilote, lui qui quittera Ferrari puisque, on le rappelait, Lewis Hamilton remplace sera Sainz la saison prochaine. C'est un premier pied de nez de l'Espagnol à la Scuderia Ferrari.
Et oui, puis il est à la recherche d'un baquet, hein, clairement.
Et oui, c'est ça.
Carlos Sainz. Donc, il y a plein de pilotes qui ont intérêt, c'est peu de le dire, à attaquer comme des malades. Et si effectivement, comme tu le dis, Paul, si jamais il est servi, non pas par la chance, par le talent bien évidemment, mais par les circonstances, et qu'il devance de manière significative Charles Leclerc au bout de 5 ou 6 Grands Prix, c'est vrai que ça fera bizarre, quoi. Et c'est vrai que ça lui donnera des arguments. On sait qu'il est rapide, hein, c'est pas nouveau, Sainz, mais ça lui donnera des arguments pour négocier un très bon contrat ailleurs pour 2025.
19e podium en carrière hein, quand même pour Carlos Sainz qui a un CV qui commence à se remplir fortement. Il a été très bon Sainz tout au long du week-end, ça c'est vrai que ça va être un des véritables enjeux de la saison aussi, hein. Ces luttes fratricides entre Sainz et Leclerc, entre Hamilton et George Russell chez Mercedes, parce que ces duos de pilotes vont être décomposés la saison prochaine. Frédéric Vasseur, le patron de Ferrari, a fait le bilan de cette course pour les Diables Rouges, écoutez-le.
Qu'on fasse le débriefing là et qu'on regarde un petit peu, il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est que clairement on avait fait un pas en avant par rapport à l'année dernière. Le négatif, c'est qu'on n'a pas été hyper opportuniste, surtout sur la voiture de Charles où on a eu un problème de frein du début à la fin et que ça nous a beaucoup pénalisé.
Voilà, Frédéric Vasseur, toujours chez nos confrères de Canal. Bilan positif hein, pour les Ferrari, quand même, Jean-Luc, là. Parce que à cette même période de l'année, l'an passé, ils étaient vraiment, vraiment loin.
Ah bah ils étaient très très loin en début de saison, vraiment ils étaient même, on peut dire, pratiquement nulle part. Et puis on a vu qu'ils ont travaillé, parce que là où on essaie de tirer évidemment d'un premier week-end de Grand Prix des conclusions définitives, et c'est normal, on est là pour ça, mais évidemment que ça peut changer parce que les monoplaces vont évoluer extrêmement rapidement. On peut penser que bon, cette histoire de frein, elle est anecdotique, elle a coûté cher à Charles sur ce Grand Prix, mais on va le résoudre. On en viendra tout à l'heure aux problèmes rencontrés par les pilotes Mercedes. On va résoudre ce genre de petits problèmes, c'est normal. On rappelle qu'il n'y a que 3 jours d'essais préliminaires à Bahreïn également en début de saison, ce qui est une hérésie. Plein de pilotes et d'équipes le disent. Avant, il y avait 2 fois 4 jours à Barcelone, hein, c'est pas rien. Quand on débute avec une nouvelle monoplace, bah justement, ça permet de résoudre tous ces petits problèmes. Après, une histoire de température. La température n'était pourtant pas très élevée à Shakir pour ce premier Grand Prix.
On était froid.
Ouais, entre 22 et 25. Bon, ouais. Pour là-bas, c'est froid.
Oui, voilà, froid.
On avait vu des 35, oui. Mais ça peut être complètement différent à Jeddah, effectivement, dans moins d'une semaine. Donc, bon, voilà. Simplement, c'est un manque de temps pour travailler sur toutes les évolutions. Et des évolutions, à n'en pas douter, il y en aura très rapidement et sur toutes les monoplaces.
Et c'est ce que regrettait Charles hein, à la fin de la course. Il disait, je pensais qu'on allait pouvoir accumuler pas mal de données. On va pas pouvoir tirer vraiment d'analyse de cette course-là et on le fera à Jeddah en Arabie Saoudite la semaine prochaine. Paul, on va maintenant se plonger dans la perf des Mercedes. George Russell 5e, je vous le rappelle, et Lewis Hamilton 7e. Russell qui disait pourtant avant le départ de ce Grand Prix à Bahreïn, je pense que derrière Red Bull on a le meilleur rythme en course. Il termine à 47 secondes de Verstappen. Lewis Hamilton à 50 secondes. On les attendait bien plus haut en fait, Mercedes. Alors, peut-être pas en termes de classement, mais en termes de perf et de rythme en course, ils ont vraiment déçu.
Oui, déçu, d'autant plus que lors des séances d'essais libres, Lewis Hamilton avait dominé hein, la feuille de statistiques. George Russell était vraiment collé à son coéquipier britannique. Et c'est vrai qu'on s'attendait à voir des Mercedes, en tout cas, à les titiller, pourquoi pas Sergio Perez, pourquoi pas les Ferrari. Et au final, non, elles se sont tout simplement plantées. Charles Leclerc disait qu'il était à l'arrêt pendant la course. On a eu la sensation, en tout cas, pour parler du septuple champion du monde Lewis Hamilton, et qu'il était aux fraises hein, sur cette première course. Course de la saison, tu le rappelais, déjà 50 secondes de retard sur Max Verstappen. Même si George Russell eh bien, rentre dans le top 5, il finit lui aussi à quasiment 47 secondes du pilote néerlandais. Il va falloir, Jean-Luc, creuser chez Mercedes. On s'attendait à des évolutions, on pensait que la flèche d'argent serait performante. C'est un premier gadin pour les hommes de Toto Wolff, clairement.
Ah bah c'est clair, puis surtout qu'ils se l'ont vu très belle après quelques tours, parce qu'effectivement, Russell était performant, il a pris l'avantage sur Charles Leclerc, il était deuxième à un moment, hein, même si Sainz était pas loin. Et puis malheureusement, comme il l'a dit, bah, sur le volant, il y a tout un tas d'alertes qui se sont allumées. Apparemment, un problème de surchauffe, ce qui est très étonnant. On vient de rappeler les températures moyennement élevées. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Hamilton a dit que lui aussi, il avait eu quelques alertes, quelques problèmes. Il ne pouvait pas exploiter la monoplace totalement, apparemment, peut-être en termes de puissance, parce que ça, on ne le sait jamais. Mais combien de temps les monoplaces peuvent délivrer la totalité de leur puissance en prenant tous les tours, etc. C'est tellement complexe, hein, cette gestion de la puissance maintenant. Le pilote peut intervenir naturellement. Puis il y a des sécurités un petit peu partout qui empêchent justement, quand il y a eu d'alerte trop grave comme celle de la température, sur la monoplace de Russell. Et c'est pour ça qu'en étant deuxième à un moment, bah, il a dû glisser par la force des choses et descendre dans le classement jusqu'au cinquième rang. Alors c'est pas mauvais, mais c'est pas du niveau de ce qu'ils espéraient évidemment. Ils pouvaient finir deuxième. Si la monoplace était restée aussi performante qu'elle l'était. Quant à Hamilton, bah, il a un peu raté ses qualifs, on le sait bien, il partait de loin, 9e, et quoi qu'on en dise, même sur un tracé comme celui-là, avec 3 zones de DRS, qui est quand même énorme, bah, c'est difficile de remonter, évidemment, quand on rappelle aussi que on qualifie quand même, il y avait quasiment les 20 monoplaces en une seconde une, et puis il y en avait 9 en 5 dixièmes. Donc vraiment, l'écart, il est réduit, quoi.
Tiens, je reviens sur ce problème de surchauffe moteur, hein, Toto Wolff qui disait après la course qu'ils ont perdu jusqu'à 5 dixièmes par tour après ce problème de surchauffe. L'un des enseignements aussi de cette course pour Mercedes, Paul, bah, c'est que George Russell domine Hamilton. Alors on parlait de Sainz et de Leclerc, mais là aussi Lewis Hamilton, on sait qu'il veut terminer et partir de Mercedes par la grande porte. Attention, parce que le jeune Russell, Jean-Luc en parlait hein, dans le premier podcast de la saison, il disait peut-être qu'enfin on va donner à Russell les mêmes moyens que ceux que possède Hamilton depuis plusieurs saisons et ça va inverser le rapport de force. C'est déjà une première indication.
Ouais, Nico, il est clair que George Russell est l'un des pilotes les plus rapides du plateau. Hein. Au volant de sa Mercedes, il a remporté déjà une course. Et c'est vrai que s'il venait à dominer assez régulièrement en qualification et en course le septuple, le champion du monde, peut-être que l'état-major de Mercedes en ferait peut-être son pilote numéro 1, sachant que l'année prochaine, il sera le pilote vraisemblablement numéro 1 de l'équipe. Même Mercedes, mais attention, Lewis Hamilton, avec son palmarès complètement dingue, hein, 103 victoires, 104 pole positions, c'est un enfant de Mercedes. Il aura vraiment à cœur de briller tout au long de cette dernière saison avec sa flèche d'argent. Mais c'est vrai que George Russell, Jean-Luc, on peut le dire, monte en puissance. Il l'avait prouvé l'année dernière. Il est en train de taquiner Lewis Hamilton. Il termine devant lui, même s'il n'y a pas un gros écart entre les deux pilotes. On va rappeler que Russell termine 5e à 46 secondes de Verstappen et Lewis Hamilton termine à 50 secondes. Mais c'est vrai qu'il marque des points d'entrée de jeu sur ce premier circuit ici au Bahreïn.
Ah ben complètement, de toute façon, bon on le sait, on dit toujours, on utilise ce mot de pépite, hein. C'est la même pour Norris ou pour Piastri par exemple, c'est évidemment une pépite, George Russell, on l'avait vu chez Williams quand Mercedes lui a permis de faire cet apprentissage de mémoire de 3 saisons, il est arrivé chez Mercedes, il était déjà mûr dans le bon sens du terme. On rappelle d'ailleurs que quand il avait fait un intermède, quand il avait pris la place d'Hamilton pour cause de Covid, hein, vous en souvenez, il était en mesure de remporter le Grand Prix. Et ça, ça reste un des mystères. Moi, j'aime bien gratter là où ça fait mal. On se demande comment Mercedes a pu se planter comme ça dans la stratégie appliquée. Bref, c'est pour rire, hein, c'est un clin d'œil. Parce que je pense que tout simplement, moi j'ose le dire aussi, on n'a pas voulu que Russell remporte ce Grand Prix d'entrée. Lui qui était un pigiste, hein, un intermittent du spectacle, qui venait prendre la place d'Hamilton. À ce moment-là, eh ben, ils ont pleuré d'ailleurs, le pauvre, hein, après. Bon, bref, donc c'est un pilote extrêmement rapide. Maintenant, il a la bride sur le cou, c'est le cas de le dire. Rappelez-vous, ils se sont frités en course 2 fois. Hein. Et vous vous souvenez qu'une fois, Russell s'est pas gêné pour dire à la radio « Mais qu'est-ce que c'est ce bazar ?» En gros, en restant poli, entre équipiers, on se frite comme ça, au détriment d'Hamilton, qui n'avait pas été tendre. Donc je pense que cette année, s'il y a des circonstances de course où les deux hommes de Mercedes sont au coude à coude, je pense que Russell, il va être très tranchant également.
Qu'est-ce qu'on retient d'autre là un peu dans ce top 10? Les McLaren, Jean-Luc, sont là au rendez-vous. Piastri 8e, Lando Norris 6e. En termes de perf, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre avant le début de cette saison. Ils chatouillent les Mercedes, hein, puisque Norris est à moins de 2 secondes de George Russell.
Oui, ils font le boulot et très bien. Là, effectivement, sur ce premier Grand Prix, ils sont encore un tout petit peu en dessous, hein, clairement. Moins rapide que les Red Bull, évidemment. Un peu moins rapide que les Ferrari, un peu moins rapide que les Mercedes, tant aux essais qu'en course. Maintenant, les deux pilotes sont brillants, puis ils ont la tête hein, quand même. Ils commettent pas d'erreur, ils sont quand même très jeunes, surtout Piastri, qui est seulement dans sa 2e saison, alors que Norris a déjà passé les 100 Grands Prix, il faut quand même le rappeler aussi, qu'il n'a toujours pas de victoire à son actif, à l'inverse de son équipier qui, lui, a remporté une sprint race. Hein. Donc oui, les deux ont faim, mais ils ne commettent pas d'erreur. Bon, les McLaren, faut progresser encore un petit peu dans tous les domaines du jeu.
Et puis les Aston. Vas-y, Paul.
Ouais, non, Nico, si tu peux me permettre, Jean-Luc, en fait, si on dresse un parallèle par rapport au premier Grand Prix de la saison dernière, on se rend compte que, évidemment, les forces en présence sont les mêmes. Peut-être que Ferrari a remplacé Aston Martin, qui avait fait des débuts fracassants avec Fernando Alonso. Hein. Aujourd'hui, les Ferrari sont 3 et 4, les Aston sont 9 et 10. Les rôles étaient inversés la saison dernière. Sinon, évidemment, on évoquait la domination de Verstappen. Les Mercedes qui sont placés, tout comme les McLaren, autant dire qu'il n'y a pas de bouleversement en haut de la hiérarchie, mais plutôt à l'intérieur du peloton, avec Ferrari qui a remplacé Aston Martin. Il y a évidemment des évolutions et Fernando Alonso le précisait, il espère voir cette Aston retrouver des couleurs hein, qui lui avaient permis de glaner pas mal de podiums hein, durant la saison 2023. Mais c'est vrai qu'on reste quand même un petit peu sur notre faim. On s'attendait véritablement à voir les Ferrari et les Mercedes venir chatouiller un petit peu plus les Red Bull de Verstappen et de Sergio Perez.
Je voulais vous entendre aussi sur cette tension qu'il y a eu chez Racing Bull, hein, écurie de Yuki Tsunoda et de Daniel Ricciardo.
AlphaTauri, tu veux dire ?
Oui, AlphaTauri.
Non, je fais exprès. Toro Rosso, en fait. Hein.
Oui, c'est ça, Toro Rosso, totalement.
Alors, en attendant, les poulets de Brest, peut-être, la prochaine, mais bon, on verra.
Chez Racing Bull Honda, où, en fait, Ricciardo s'est retrouvé devant Tsunoda. Tsunoda qui a demandé à passer Ricciardo parce qu'il avait beaucoup plus de rythme. On a essayé de protéger la position de Ricciardo, et quand ils ont passé la ligne d'arrivée, il y a Tsunoda qui a fait une queue de poisson à Ricciardo, qui lui a mis un gros coup de frein devant lui. C'était vraiment très tendu à la radio, Jean-Luc.
Ouais, bah en fait, c'est Ricciardo qui avait chaussé les softs au 37e tour, et Tsunoda lui avait au 35e tour les durs, donc a priori Ricciardo, sur le papier en tout cas avec les softs, était un poil plus rapide. Et devant il y avait une Aston, si je me rappelle bien, donc ils se sont dit on va peut-être pouvoir la rattraper en lui lâchant la bride sur le cou, et puis en fait ça n'a pas fonctionné, et en fait voilà, c'est Tsunoda qui a dit mais vous rigolez ou quoi, you're kidding me, c'est une plaisanterie, quand on lui a dit non laisse-le passer parce qu'il a les softs. Et puis en fait il avait cramé déjà les softs Ricardo, donc il n'a pas pu s'en aller vraiment, et c'est pour ça que bon, ben, il est encore jeune, hein, le jeune Yuki, il est encore fougueux. C'est vrai que bon, c'était mieux de ne pas mettre les deux voitures dans le rail après l'arrivée, en plus ça fait toujours désordre.
Hein. Oui. Non mais s'ils la mettent après la ligne d'arrivée, après avoir passé le drapeau à Damier, c'est quand même énorme. Mais,
Tout et ça puis pour bon, 13e place au classement final quand
ouais,
même.
Ouais, ouais, bah, ah, oui, c'est un bon, ils ont du jus, ils ont du jus, on va pas leur reprocher.
Ouais, mais après on connaît l'importance en Formule 1 de terminer devant son coéquipier aussi.
Ouais.
Dans l'optique de garder ton baquet sur la saison suivante.
Bah, surtout Yuki,
surtout bon, pour une première course.
Yuki, ouais, c'est un garçon gentil. Là, il y avait une très belle cohabitation avec Pierre à Gasly. Mais là, il a compris que s'il y en a un qui monte chez Red Bull la saison prochaine, c'était pas lui, hein, a priori. Enfin, on parle beaucoup de Ricardo. Donc, il a à cœur de montrer qu'il est plus rapide que le vieillard chenu de Ricardo.
Ouais. Bon, on passe au moment tristounet de notre podcast. Je pense que ça va être ça pendant quelques courses, hein, Jean-Luc. C'est bien sûr les résultats d'Alpine avec Esteban Ocon qui est 17e, Pierre Gasly 18e. Au fond de ce classement, et ce qui est inquiétant, Pierre Gasly l'a confié à Canal Plus à la fin de la course, c'est qu'en fait ils ont tiré le meilleur de leur voiture. Écoutez Pierre Gasly.
Malheureusement, ça reflète un peu la performance de ce week-end. On a exécuté une bonne course, on a essayé des choses différentes en termes de stratégie. Je pense qu'on a maximisé le potentiel. On a les pit stops, je pense, à améliorer. Et ça me coûte 10 secondes, donc ça n'aurait pas changé la place, ça ne nous aurait pas donné des points. Mais je pense qu'on le sait, il y a du travail.
Bon voilà, Pierre Gasly au micro de Canal+, Esteban Ocon qui a dit qu'il pensait qu'à Jeddah, ça irait un petit peu mieux en termes de perf. On le disait, Jean-Luc, dans le premier épisode du paddock RMC, c'est difficile de les voir à ce niveau de performance, mais voir Ocon et Gasly se faire passer comme ça pendant toute la course, terminer à plus d'un tour, ouais, c'est dur.
Bah, clairement, ça fait très très mal au cœur. Hein. Je rappelle encore, à la base, c'est l'équipe Renault. On l'a repeinte Alpine il y a 3 ans, mais ça ne change rien au fond du problème. On sait qu'on se bat très fort des deux côtés, du côté d'Enstone, comme on dit, et du côté de Viry. Peut-être là aussi, ben, le talon d'Achille, il est là, malgré tout, il faut l'évoquer, parce qu'on a vu en fin de saison dernière, je le rappelais effectivement dans le premier podcast, qu'il y avait un peu de tirage du côté des Anglais. On disait, ah ben, c'est pas nous, le châssis, il est impeccable. Donc ça voulait dire que c'est le moteur. C'est pas bon hein, quand on entend des trucs pareils. On a également totalement décapité la direction de cette écurie, puisque 8 à 10 personnes compétentes et lourdes sont parties. Donc ben, les pilotes, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres, ils essaient de s'accrocher à ce qu'ils peuvent. Comme il a dit, on a maximisé ce qu'on avait, c'est tout dire hein. Quand on termine effectivement 17e et 18e et complètement dans les choux. Alors bon, la seule lueur, allez, pour essayer de vous rendre un petit peu de sourire, c'est Pierre Gasly. On lui a chaussé les pneumatiques soft à lui aussi à la fin, au 45e tour. Alors évidemment, en course, il a un temps au tour qui est pas ridicule, 1:34.805. C'est pas ridicule en pneus soft hein, sincèrement. Donc est-ce que on doit travailler comme des fous nuit et jour, on va apporter des améliorations, j'espère, des Jeddah. Ben oui, il faut espérer que, on va dire qu'ils vont s'approcher des points.
Et puis d'ailleurs, il y a une information là, qui est en train de sortir à confirmer, mais le directeur technique d'Alpine, Matt Harman, et le responsable de l'aérodynamique, Dirk de Baer, auraient démissionné. Donc voilà, quand on parle de guerre interne, ouais. Paul... C'est une équipe. En fait, c'est une équipe qui est en train de se déchirer avec les deux usines. Enstone qui tire plutôt de son côté, qui va charger un peu Viry. Enfin, on sait comment ça se passe cette organisation chez Alpine et c'est une vraie guerre interne là en ce moment. Hein.
Mais qui se déchire. Depuis déjà pas mal de mois quand même hein, et le ménage continue, Nico tu le précisais effectivement, ils vont faire leur préavis normalement fin avril, eh bien Matt Harman et Dirk de Baer ne seront plus eh bien, chez Alpine, et lorsque l'on entend le discours aussi bien à l'issue des qualifications qu'à l'issue de la course hein, de nos deux Français, Pierre Gasly et Esteban Ocon, on peut penser que la saison sera vraiment longue pour les deux tricolores. Et d'ailleurs on parlait tout à l'heure, pourquoi pas, d'un possible changement de baquet pour certains pilotes la saison prochaine, notamment de Carlos Sainz, pourquoi pas rêver de voir Max Verstappen chez Mercedes. On évoque également hein, en coulisses, pourquoi pas un Pierre Gasly eh bien, à la place de Lewis Hamilton. En tout cas, l'agent de Pierre Gasly fait le forcing aujourd'hui auprès de Toto Wolff. Ouais, donc c'est vrai que ça ne va pas bien. Dans le jargon, on dit que les Alpines sont garées, hein, elles étaient à l'arrêt tout au long de ce week-end, même si Jean-Luc précisait, c'est vrai qu'avec des pneus stoff, le 1.34.8 n'est peut-être pas si mal pour Pierre Gasly, mais on voit mal comment les Alpines pourraient d'un seul coup eh bien, faire un bond au classement. On rappelait qu'elles ont terminé 17 et 18e. Jean-Luc, ça risque d'être vraiment, on le répète encore une fois, très très long hein, pour nos deux pilotes français.
Ah oui, et puis ce qui est terrible pour eux, c'est que, encore une fois, l'écart entre les meilleurs et les moins bons, on va dire ça comme ça, s'est réduit. Parce que lors des qualifs, il ne manquait que 2 dixièmes à Pierre Gasly, le dernier, pour passer la barre, hein, pour passer le cut et se retrouver au niveau de Magnussen. Donc on peut dire qu'effectivement, ça tient à pas grand-chose. Mais oui, mais c'est la Formule 1 de 2024 maintenant. Les écarts sont extrêmement réduits. Donc un tout petit manque de performance. Et puis, ce qui est terrible, c'est qu'on ne peut même pas mettre l'accent sur, en tout cas officiellement, sur quelque chose. Ceci dit, avec les deux pertes annoncées, là, c'est quand même assez gravissime parce que ça fait encore deux personnes qu'il va falloir remplacer en Formule 1, on le sait. Même si on essaie de recruter ailleurs, puis j'allais un peu dire, quand le bateau prend l'eau, qui va avoir envie véritablement, qui va avoir envie de venir hein, pour essayer de décoper et coper avec quoi ? Non, c'est une situation qui est, utilisons les mots, qui est dramatique pour le moment. Alors espérons qu'effectivement, à Jeddah, ça ira mieux. Et puis, parce qu'il faut attendre, comme toujours en Formule 1, il faut attendre 4 à 5 Grands Prix pour avoir, il faut attendre après l'Australie, le Japon, et puis... Je vais même vous dire qu'il faudra attendre la Chine, pour moi, pour y voir clair. Parce qu'on aura des configurations de circuits différentes, des températures différentes, des tracés différents, du travail, de l'évolution. Et là, on pourra dire si véritablement c'est aussi catastrophique que ça semble l'être pour Alpine.
Les gars, merci beaucoup pour ce premier débrief de la saison de ce Grand Prix de Bahreïn. On se retrouve, nous on s'envole rapidement pour Jeddah en Arabie Saoudite et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode du Paddock RMC. Jean-Luc, il y aura encore du suspense la semaine prochaine ou pas?
Mais oui, je vais vous en trouver, t'inquiète pas.
Tu nous as vendu du suspense, mon Jean-Luc, en début de saison, je te rappelle.
Oui, on va vous en trouver. Non, mais j'espère qu'il y en aura en tout cas. Et même si c'est pour, comme on dit, pour les places d'honneur, entre Ferrari et Mercedes et McLaren, ça va friter derrière Verstappen, c'est évident.
Non, mais on s'est quand même régalé, il y a eu plein d'enseignements à tirer. De cette première course de la saison. Merci Jean-Luc,
merci
Paul.
Merci,
je vous rappelle, abonnez-vous au Paddock RMC, téléchargez le podcast et surtout mettez-nous une petite note. C'est super important pour le recensement de notre tout nouveau podcast. On se retrouve lundi prochain. Bye bye.
Le Paddock RMC.